France Culture.
France Culture, être et savoir. Louise Touré.
Bienvenue dans Être et Savoir, le magazine de l'éducation de France Culture, le mercredi en direct à 14h et en podcast. Aujourd'hui, culture de l'agriculture, que transmettons-nous aux enfants de l'histoire et des réalités actuelles des mondes agricoles ? Adieu vos vaches au Salon de l'agriculture, en tout cas pour cette année. Ce grand événement national ouvre le 21 février et accueillera 3500 animaux tout de même, dont des cochons. Après des mois marqués par une très très forte actualité, loi Duplon, Mercosur, dermatose nodulaire, on rappelle que les agriculteurs ne sont plus que 496 000 selon le dernier chiffre du recensement agricole. La France en comptait 2,5 millions en 1955. Alors si on élargit à l'ensemble des travailleurs du secteur, on atteint 761 000 personnes aujourd'hui. C'est moins que les enseignants, j'ai fait le calcul, qui seraient 852 800, 1,2 million en tout de personnel dans l'éducation nationale. Mais c'est une comparaison qui donne une idée de ce que représente ce monde agricole. Alors qu'apprennent nos enfants de l'agriculture, après les contes des tout-petits et les albums jeunesse. Personnellement, moi j'aime beaucoup, beaucoup Caroline à la ferme, mais c'est très, 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 très daté. Et au-delà des informations anxiogènes déjà citées, qu'est-ce qu'agriculture signifie entre des réalités ultra diverses ? Élevage comptant des centaines d'animaux, petites exploitations, fermes pédagogiques, on va en parler, grandes plaines céréalières, ou pour prendre un exemple personnel, quelques arpents d'olivier en Haute-Provence. Et à l'heure où on parle d'agriculture urbaine, ça, on va le définir. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce qu'on mange ? Est-ce qu'on arrive à le raconter aux enfants ? Parce que c'est ça, l'agriculture. Et pourquoi est-ce que c'est important de savoir, comprendre et ressentir ce que cultiver et élever veut dire ?
C'est pour toi que je l'ai tué. Pour ton arrivée, je te mitonne un civet.
Bah, t'as pas l'air de te faire plaisir, t'en fais une bobinette.
Je crois surtout qu'il est un peu impressionné à cause du...
Ah, c'est vrai que c'est un petit parisien. Et Jeannot Lapin, t'as pas dû voir souvent comment on lui retire le pyjama, hein. Qu'est-ce que tu veux? On fait pas d'omelette sans casser d'œufs. T'aimes ça, les œufs?
Ah, il adore ça,
hein. Ah bah, Lapin, c'est pareil, il saute pas tout seul dans la casserole.
Un extrait du Grand Chemin, un film des années 80 qui rappellera des souvenirs à beaucoup et qui active cette différence urbain-ruraux et des enfants qui ne connaîtraient pas la vie de la campagne, la terre, comment on tue les animaux. C'est encore un truc qu'on se raconte évidemment aujourd'hui. Bonjour Perrine van der Broek.
Bonjour.
Vous êtes enseigneuse chercheuse en géographie à l'ISARA et membre du laboratoire d'études rurales, le LER. Vous êtes co-responsable avec Claire Delfos d'un programme de recherche action financé par la Fondation de France. Jardinaire, c'est comme ça qu'on dit. Et donc, je salue Claire Delfos qui est avec moi dans le studio.
Bonjour.
Vous êtes également professeur de géographie rurale à l'Université Lumière Lyon 2 et membre du même laboratoire. Donc, et vous venez de publier un livre donc sur l'agriculture urbaine et un autre livre dont le titre a vraiment retenu mon attention. Arbre, bruit, cabane, abécédaire affectueux de la ruralité aux éditions 205. Le mot affectueux, il m'interpelle parce qu'il y a quelque chose quand on parle. Alors, pas forcément de l'agriculture, mais de la campagne, de la ruralité, autour de l'amour, du lien, de nourrir le monde, ça c'est dans les programmes scolaires, de ce patrimoine. Est-ce que ça nous embrouille pas un peu, ce mot affectueux ?
Alors, le mot affectueux peut effectivement nous embrouiller, mais l'image est souvent très contrastée aussi de la campagne, tout comme de l'agriculture d'ailleurs, avec des visions parfois très, très nostalgiques et d'autres peut-être plus dures, voire un peu misérabilistes aussi parfois. Mais moi, quand j'ai utilisé le mot affectueux, c'est tout simplement parce que c'est le rural, la campagne, c'est à la fois mon enfance dans un espace rural plutôt qu'on qualifierait aujourd'hui de périurbain. urbain, ou en tout cas où il y avait aussi de l'agro-industrie, puisque j'étais élevée au pied d'une usine à betteraves, donc dans les odeurs de...
Plutôt dans le nord de la France
que... Oui, en région parisienne. Voilà, dans les grandes plaines céréalières. Et donc, j'ai quand même baigné dans ce milieu rural avec... j'ai été élevée par des grands-parents, en plus, donc qui n'étaient pas... n'avaient pas de lien avec l'agriculture, mais où il y avait des poules, des canards, des lapins, comme des habits, comme que ma grand-mère déshabillait, ou des canards qui couraient sans tête une fois qu'ils avaient la tête coupée. Et donc, affectueux un peu pour tout ça, et le jardin. Enfin, voilà, donc un lien au vivant, à la production qui n'était pas peut-être strictement agricole, mais dans un environnement aussi agricole et agro-industriel. Et puis, affectueux parce que le rural, l'agricole, c'est sur quoi je travaille. Tout de suite, durant mes études, je me suis spécialisée sur le rural et l'agricole. J'avais fait ma thèse sur les fromages, donc voilà. Mais affectueux ne veut pas dire non plus, seulement nostalgique. C'est dans cet ouvrage, je n'hésite pas à pointer aussi la dureté de ce monde, dureté qu'on va retrouver à travers la littérature parfois. Donc j'ai consacré un article au roman sur le rural, en commençant par Zola par exemple, mais aussi sur des questions de logement, de précarité aussi, et notamment pour reboucler avec l'agriculture aussi, par exemple sur les conditions des bergers aujourd'hui, puisque on arbre, bruit, cabane. Dans cabane, il y a aussi la cabane de berger, et il y a aussi toute ce qu'on appelle la cabanisation ou précarisation dans l'habitat en milieu rural.
Et on s'intéresse à des territoires très différents les uns des autres en France, puisque vous parlez de grandes plaines céréalières. C'est que la betterave, c'est le nord de la France, c'est aussi ces plaines d'Île-de-France. Les bergers, évidemment, on passe dans des espaces ruraux totalement différents. Elle est compliquée à comprendre, cette complexité, déjà pour nous, le public, qu'on soit urbain ou ruraux d'ailleurs, oui. Parce qu'on n'est jamais dans toutes les réalités à la fois, et pour les enfants encore plus.
Oui, bien sûr. Je vais le faire dans le classique géographique. La France, c'est en termes de ruralité et d'agriculture, est vraiment très très diverse. Donc, on a effectivement des grandes exploitations céréalières avec des cultures industrielles. On a un peu l'élevage pastoral qu'on imagine un peu dans des régions de montagne, mais on a toute une variété autour, et on peut très bien avoir des exploitations d'élevage dans une région de grande culture, des micro-exploitations dans des régions de grande culture, comme on peut avoir des grandes exploitations, par exemple, j'habite à Bourg-en-Bresse, dans la Bresse autour, et en même temps encore des exploitations qui pratiquent un peu polyculture, polyélevage.
Donc c'est plus un maillage que les distinctions géographiques très grandes qu'on a apprises, bocage, open field, oui. Diagonale du vide, qui sont peut-être un peu datées, mais qui ont beaucoup aussi marqué nos représentations du territoire, enfin, pour ceux qui s'en souviennent, mais moi aussi j'ai étudié la géographie, alors je m'en souviens assez bien. Ce qui est complexe aussi, c'est que c'est un monde, des mondes, parce que je pense qu'il faut quand même continuer à parler au pluriel, qui se réinvente et qui innove, Perrine van der Broek, alors qui innove par les pratiques et puis aussi par la manière peut-être dont on les aborde et dont on en parle au public et aux enfants en particulier, puisque ce sont les enfants qui m'intéressent.
Oui, tout à fait. Alors, je trouve que c'est important effectivement de parler des mondes, parce qu'on peut le dire aujourd'hui, on est sur des réalités qui sont de plus en plus contrastées, avec un mouvement de concentration avec des exploitations de plus en plus grandes, des changements de pratiques qui vont vers l'introduction de nouvelles technologies, de plus en plus d'automatisation, le rôle des drones par exemple en agriculture pour faciliter un certain nombre de choses, de l'automatisation aussi au niveau des tracteurs. Donc ça, c'est quand même un mouvement qui est à l'œuvre et on a donc une transformation de qui sont finalement les agriculteurs qui vont pouvoir gérer tout ça. Et puis, il y a aussi finalement des nouveaux profils qui, à mi-parcours de leur projet professionnel, choisissent de revenir s'installer en agriculture et qui vont partir sur des modèles qui vont parfois être ceux-là et parfois aussi être des modèles plus contrastés, par exemple de production maraîchère en commercialisation en direct et en circuit court. Ces nouveaux profils qui parfois ont un bagage un peu différent, par exemple qui ont pu travailler, mettons, auparavant dans la brasserie et qui vont du coup aller ensuite transformer un petit peu les manières d'être agriculteur en développant des systèmes plus hybrides qui vont composer, par exemple, entre la ferme peut être à la fois un lieu d'accueil, donc tel qu'un bar, et en même temps être un lieu de production. Donc on a effectivement des réinventions qui sont très importantes. Et les agriculteurs aujourd'hui, on a quand même un choc démographique qui va se passer dans les 10 ans à venir. Ce choc démographique va accentuer en fait ces contrastes dans les mouvements de renouvellement qui se passent. Et face à ça, on voit qu'il y a de la réaction sur comment est-ce qu'on communique sur le métier. Les agriculteurs ouvrent leurs portes, cherchent à reconstruire aussi des liens aux territoires qui les environnent. Et travaillent aussi, y compris sur les réseaux sociaux, sur la manière dont ils communiquent et dont ils communiquent auprès des différents publics, et notamment donc les enfants. Donc on va voir les agriculteurs se former entre eux sur comment être ambassadeurs aussi auprès des plus jeunes. Des liens qui vont se créer entre des écoles, écoles primaires, établissements du secondaire, pour dire parlons de nos métiers, parlons de ce qui environne ces jeunes qui connaissent plus forcément l'agriculture, pour finalement les sensibiliser à venir travailler. Alors dans un cas par exemple proche, on a travaillé sur l'arboriculture, aller les interpeller, déjà qu'ils connaissent mieux en fait ce qui les environne, mais aussi qu'ils se disent pourquoi pas être saisonniers dans un premier temps, et puis peut-être évoluer aussi dans leur projet professionnel vers ces métiers-là.
Alors c'est la figure montante peut-être de l'agriculteur ou l'agricultrice pédagogue, et puis il y a aussi beaucoup d'agriculteurs et agricultrices qui enseignent dans les lycées agricoles. Alors, on va revenir à cette figure, mais on va tout de suite écouter un pédagogue tout court. C'est un professeur d'histoire-géographie, Jean-Emmanuel Dumoulin. Il enseigne au collège, dans l'académie de Clermont-Ferrand. C'est pas pour rien qu'on a choisi une académie rurale, évidemment. Il était aussi coordinateur au Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, le CLEMI, et ensemble on a parlé de ce qu'on apprenait. Ou alors bien sûr il y a les cours de sciences de la vie et de la terre, là il est pas concerné, l'histoire, moi je me souviens très bien de la Seulement Triennale par exemple, alors c'est encore plus daté, et je salue madame Kermarek au passage. Et puis bien sûr,
et surtout en géographie, puisque cette question de l'étude de l'agriculture en fait elle traverse l'ensemble des programmes de géographie du secondaire. Ça commence dès la 6e avec l'étude d'espaces agricoles de faible densité. Ça continue surtout en 5e avec le thème sur les ressources limitées à gérer et à renouveler, à travers deux chapitres en particulier, celui sur nourrir le monde et aussi celui sur les ressources à gérer, puisqu'on peut parler de la question de l'eau qui imprègne beaucoup le monde agricole. On va parler beaucoup des conflits d'acteurs et aussi en 3e, également avec les espaces productifs français et aussi les espaces de faible densité où on va aussi parler du monde agricole. Et puis après, au lycée, on peut en parler, les collègues peuvent en parler en seconde avec un thème sur l'environnement, le développement des mobilités, les défis d'un monde en transition. Et c'est surtout en première générale et en première techno qui vont aborder cette question de l'agriculture avec la diversification des espaces et des acteurs de production, avec les systèmes productifs en France qu'ils revoient, et une grosse question sur les espaces ruraux et leurs évolutions, les multifonctionnalités des espaces ruraux et leur fragmentation. Et il y a même un sujet en première technologique sur les espaces ruraux aux fonctions de plus en plus variées, où ils étudient le rôle des agriculteurs et de l'agriculture. Et en terminale, ils abordent l'aspect de la politique agricole commune. Voilà. Donc, autre enjeu et autre sujet de crispation aussi dans le monde agricole. Les enjeux de la PAC ont évolué au cours du temps depuis sa création. Remis en cause, critiqué en termes de concurrence au niveau international, etc., etc., plus les nouveaux enjeux environnementaux aujourd'hui qui font qu'on a des aides si on respecte telle norme ou telle norme. Donc tout ça, c'est vraiment un vrai sujet aussi. Ouais.
Et puis quand on veut devenir agriculteur ou agricultrice, il faut apprendre de plus en plus de choses.
Aujourd'hui, vraiment, se lancer dans ce monde-là, ça demande beaucoup, beaucoup. Ce n'est pas juste la connaissance des animaux et le soin du troupeau, hein, j'ai envie de dire. Il y a vraiment tout un champ économique, même géopolitique, environnemental à étudier. Et c'est vraiment pas évident. C'est passionnant, mais pas évident et plein de risques. Ouais.
Comment ces programmes sont-ils reçus par vos élèves, puisque vous enseignez en milieu rural? Ce qui ne signifie pas que tous les élèves appartiennent à des familles d'agriculteurs, mais tout de même, on est un peu plus proche du sujet. Comment ils font le lien entre ce qu'ils apprennent et la réalité de l'agriculture qu'ils perçoivent là où vous êtes, dans le Massif central?
En fait, c'est assez marrant parce que quand on parle de l'agriculture dans le monde, finalement, c'est un peu comme sur les autres chapitres, ils s'en sentent un peu éloignés. Il faut vraiment arriver sur des études de cas proches de chez eux pour que vraiment, là, il y a quelque chose qui se passe dans les échanges. Ils sont très attentifs à ce que je vais dire, voir si éventuellement je vais raconter des bêtises ou pas sur un monde qu'ils connaissent très bien pour certains d'entre eux et qui le vivent quasiment au quotidien, puisque pour eux, en fait, pour ceux qui veulent s'orienter dans ce monde agricole, c'est vraiment un métier passion depuis qu'ils sont tout petits, qu'ils connaissent très bien en termes de techniques, de pratiques. Ils vont même employer du vocabulaire très pointu, très spécifique, sur lequel ils cherchent parfois à nous coincer un petit peu. Et là où ça devient intéressant, c'est justement quand on étudie les enjeux de l'aménagement du territoire et les transformations de ce monde agricole, qui est percuté par plein de choses. Déjà, les enjeux géopolitiques actuels, mais aussi les enjeux du changement climatique. Et ils sentent ces tensions, oui, concrètement, dans cette filière-là et dans ce monde qu'ils veulent davantage intégrer.
Claire Delfosse, professeure de géographie rurale à l'université, vous vouliez réagir sur la question d'Emmanuel?
Oui, c'est vrai que j'ai regardé un petit peu les manuels de lycée et que on voit que les programmes d'histoire-géographie sont très lourds, vraiment beaucoup de choses et du coup
riches ou impossibles à vraiment terminer.
Je pense que oui,
pour les élèves et les profs.
Voilà, pour les profs, ça doit être très très compliqué. Et que dans ce cadre-là, je pense que c'est compliqué d'être nuancé dans les contextes, dans ce que peut être l'agriculture. Alors je suis pas là pour mettre juge, mais quand j'ai regardé un petit peu, je voyais les cartes et c'est vrai qu'il faut simplifier, mais on avait un peu une opposition à agriculture productiviste et agriculture en recul. Et heureusement, dans un autre manuel, on voit justement l'Auvergne, la labellisation, les fromages, mais on sent que c'est difficile de montrer la nuance de ce monde justement très divers. On regardait les résultats du recensement, on nous dit bien que c'est le secteur économique le plus inégalitaire, aussi en termes de revenus, de mode de vie. Voilà, donc c'est vrai que c'est difficile de faire passer ça quand on n'a pas beaucoup de temps.
Et je rappelle que vous êtes spécialiste du fromage, vous l'avez dit, est-ce que vous pensez qu'il y a une forme de violence aussi à dire d'espaces ruraux, ils sont en recul quand des agriculteurs et des exploitantes et exploitants défendent aussi une manière de mener à la fois leur exploitation, leur production, le fait d'être en bio ou pas, ou de vendre localement, etc. Tout ce qu'on connaît aussi d'enjeux très actuels. Hein.
Oui, tout à fait. Je pense que l'idée de, on peut dire en recul, c'est recul peut-être qui m'a choquée et cette opposition productiviste recul. Mais c'est vrai qu'il faut faire des cartes, il faut les simplifier, il faut apprendre des choses. Mais peut-être ce qu'expliquait Perrine sur les nouvelles formes et d'agriculture, peut-être les nouveaux enjeux. Hein, je vois, il y a bien cette idée de l'importance de l'Union européenne, de la politique agricole commune, du malaise paysan qui est lisible aussi dans les manuels, de la durabilité, mais peut-être aussi montrer. Comme le soulignait le professeur, les enjeux d'aménagement du territoire, de l'agriculture, dans le maintien de paysages, d'équilibre. Enfin, voilà, ils ne sont pas que des perturbateurs naturalistes voilà, de la nature. Voilà ce que je veux dire.
Alors, ils sont importants, les mots, et les mots de la géographie. On parle de géographie rurale, on parle de géographie urbaine, et parfois de géographie humaine. Alors, Perrine van der Boek, est-ce qu'il faut inventer une géographie rurale humaine, au sens de la géographie humaine qui s'intéresse aux gens?
Oui. Eh bien, oui, c'est sûr que là, on pourrait revoir aussi la manière dont on communique et dont on parle des métiers, y compris dans les programmes. Enfin, et c'est un sujet aujourd'hui dont se saisissent quand même beaucoup, justement, le ministère de l'Agriculture, qui a un enjeu d'attractivité des métiers. Mais comment on parle aussi des hommes, des personnes, en fait, qui exercent l'agriculture, et de pas simplement l'aborder. Ben, c'est vrai qu'il y a plusieurs angles. On peut aborder les choses par l'angle de l'alimentation, de nourrir. On peut aborder les choses par l'angle des paysages. La question du rapport au vivant qui est évidemment centrale, mais il y a aussi la question de quels sont les métiers, quel est le travail qui peut y avoir derrière. Et ces dimensions-là sont assez invisibles globalement aujourd'hui dans les manières d'aborder le sujet.
Alors, je parlais de la figure du ou de la pédagogue, Augustine Labouille. Vous êtes là aussi pour l'illustrer en matière agricole. Vous êtes ingénieure agronome de formation, spécialité œnologie. Bonjour.
Bonjour.
Alors, je pense pas que ce soit la spécialité œnologie qui vous ait conduit vers les enfants, mais vous êtes à l'origine d'un projet extrêmement intéressant, Agri. MUS, projet de sensibilisation à l'agriculture. Ça a été réalisé il y a quelques années, 2022-2023, dans l'école primaire Les Amandiers du village de MUS, dans l'académie de Montpellier. Vous êtes une ancienne élève de cet établissement. Pourquoi vous avez voulu aller voir les élèves pour compléter, en fait, j'imagine, leur savoir, leurs apprentissages, leur aussi nourrir leur sensibilité sur le sujet de l'agriculture, puisque eux-mêmes sont pas très très loin en fait d'espace agricole, ils vivent même dedans.
Non, effectivement, ils sont pas très loin et on a la garrigue à 5 minutes à pied de l'école. Mais comme vous l'avez dit et introduit au début, le nombre d'agriculteurs ne cesse de diminuer d'année en année. Et c'est important, je trouve, de sensibiliser dès la plus jeune, dès le début de l'école, les enfants au métier d'agriculteur. Et moi-même, en BTS, j'ai eu des professeurs qui étaient passionnants. Ils m'ont transmis un peu leur passion. Et donc, c'est dans ce projet d'Agrimus, de sensibilisation à l'agriculture, je voulais transmettre la passion du métier aux enfants, de la maternelle jusqu'au CM2.
Alors, vous savez ce que c'est l'agriculture ?
Oui, c'est quand on cultive des plantes, des fruits, des légumes.
Est-ce que c'est important l'agriculture ?
Oui, ça nous sert à manger, à boire.
C'est important ça ?
Oui. Parce que si on ne mange pas, on pourrait mourir.
Est-ce que vous savez comment on fabrique le vin ?
En écrasant des raisins, on les met dans des tonneaux pour en plusieurs jours et après dans des bouteilles. Mmh.
Et le fromage, est-ce que vous savez comment on fait le fromage ?
Du lait, on traite les chèvres, après on fait du lait et on fait du fromage. On secouant le lait et en mélangeant.
Alors, c'est très intéressant d'entendre ces conversations que vous avez captées, Augustine Laboué. J'ajoute que vous avez un BTS en production animale, hein, donc vous êtes très capée sur le monde agricole et la science de l'agriculture. Quand vous montrez tout ça aux enfants, quand vous êtes avec eux et que vous discutez, est-ce que vous avez l'impression d'accompagner leur curiosité, de les ouvrir, de les sensibiliser? Mais finalement, pourquoi faire? Pour les entraîner vers ces métiers-là, pour qu'ils comprennent mieux là où ils vivent, pour qu'ils partagent leur savoir?
Eh ben, c'est un petit peu de tout. L'objectif, c'était vraiment voilà, de leur faire, de leur transmettre un peu tout ce que j'avais vécu en expérience et de partager et aussi de leur faire de devenir acteurs dès la primaire. Donc, on a mis en place, durant ce projet, on a créé un potager et donc de la maternelle jusqu'au CM2, ils ont pu toucher à la terre. Planter, semer, désherber, arroser, récolter leurs légumes. Et donc, pourquoi pas, l'idée, c'est pourquoi pas faire naître des passions pour ce métier-là et les autres métiers qu'on a abordés. Et aussi, s'alimenter, ils le font, on le fait tous 3 fois par jour. Et en ayant ces bases-là, de connaître, après, ils peuvent mieux faire leur choix par la suite. En sachant d'où vient leur alimentation, après, ils seront plus à même de choisir ce qui est bon ou pas pour eux.
Donc l'alimentation, c'est une des plus grandes portes d'entrée. Je ne sais pas si on est encore complètement dans la géographie, Claire Delfosse, mais ça fait partie de ce qui fait le lien avec le monde agricole, un lien évident dont on peut parler aux enfants et qui en même temps inquiète un petit peu, à la fois par la distance entre ce qu'on mange, pas forcément à la cantine d'ailleurs, mais ce qu'on va choisir de manger, qui peut être ultra transformé. Et puis cette inquiétude autour des intrants chimiques, des produits qui se retrouvent dans notre alimentation.
En fait, ce dont on se rend compte, c'est que, surtout depuis le début des années 2000, on a une préoccupation importante sur la qualité de l'alimentation, ce que l'on mange, et du coup, une attention aussi à l'agriculture. C'est une sorte de retour en se disant, c'est aussi en lien avec l'agriculture, ce que peut-être on avait oublié, il me semble. Et l'attention aujourd'hui sur l'alimentation permet, me semble-t-il, de renouer ce lien entre notre alimentation et l'agriculture, et en tout cas suscite beaucoup de réflexion, d'action, tant de la part de collectivités territoriales qui sont impliquées désormais pour l'alimentation de leur cantine et qui elles-mêmes ont redécouvert comment on s'approvisionne, comment on peut s'approvisionner localement, que fait l'agriculture. Donc il y a des scènes où se rencontrent des agents des collectivités territoriales de l'agriculture. C'est peut-être un dialogue qui se renoue autour de cela, avec des lieux qui sont des lieux de débat comme... alors, il y a eu des associations qui ont été créées à partir du milieu des années 80 autour de l'agriculture périurbaine, comme Terres en Ville, qui aujourd'hui, de l'agriculture périurbaine, travaille beaucoup avec les collectivités territoriales sur l'alimentation, mais aussi des associations comme le réseau Marguerite, qui a été porté par l'ENS Lyon et qui est donc des enseignants du supérieur en lien avec des enseignants du secondaire et du primaire et des collectivités territoriales pour travailler autour de l'alimentation. Qu'est-ce que tu manges ? Et en travaillant sur qu'est-ce que tu manges, bah, réfléchir aussi à l'agriculture. Et puis, ça peut venir aussi d'associations. Je pense notamment, par exemple, dans le département de l'Ain, une action qui s'appelle Tableau Vert, qui est portée par le réseau ADAR et la FOC. C'est des associations qui visent à mieux faire connaître aussi l'agriculture et qui ont monté des programmes pour sensibiliser à l'agriculture tant des enseignants du primaire au lycée que des centres de loisirs. Donc en fait, je pense que cette sensibilisation à l'agriculture passant par l'alimentation d'une certaine façon arrive plutôt par des animations ou des sorties plus que dans le programme Les Manuels, comme on pouvait dire.
Fallait qu'on en parle. Tout
voilà.
Même.
Et aussi par le périscolaire, quoi, qui peut jouer aussi un rôle. Mais ce qui était intéressant dans le réseau Marguerite, c'est que ça croisait aussi bien l'histoire géo, la SVT, que la littérature, que les langues, que les arts plastiques, pour travailler sur alimentation et de là sur l'agriculture.
C'est très dynamique à ce qu'on voit, hein. Perrine van der Broek.
Oui, tout à fait. Ben, ce qu'on constate aussi donc dans notre travail de recherche sur les jardins, qu'il y a une vraie mobilisation et qui se fait souvent avec l'arrivée des enfants dans un ménage, une volonté de se réapproprier les savoirs et les savoir-faire autour du vivant, autour de l'alimentation, qui sont, quand on parle de savoir et savoir-faire, on parle aussi de ceux de savoir cuisiner, la capacité à mobiliser un couteau, hein, dans ceux qui font de la médiation autour des jardins et de la cuisine. Beaucoup d'enfants, en fait, vers 7-8 ans, n'ont pas forcément été amenés à découper un légume par eux-mêmes. Et ce type de médiation, en fait, joue un rôle très important dans, finalement, se réapproprier à la fois le produit, mais aussi finalement les savoirs et savoir-faire. Donc c'est à partir de planter en fait le légume jusqu'à finalement le cuisiner.
France Culture, être et savoir. Louise Touret.
Aujourd'hui, on s'intéresse à la culture de l'agriculture, des agricultures, celle des enfants qui passent à travers des savoirs académiques et puis beaucoup d'initiatives par des professionnels du secteur ou de l'éducation ou ceux qui sont un peu entre les deux. Il y a beaucoup de médiation, qu'on parle d'élevage ou qu'on parle de culture ou même de jardin. Parce que le jardin, c'est déjà une porte d'entrée vers ce qui pousse et l'agriculture. Alors, j'ai pas tout recensé. On a déjà parlé de pas mal d'initiatives. Mais je sais que, par exemple, à Romainville, en Seine-Saint-Denis, il y a des transhumances qui sont organisées. Je me souviens des moutons du parc de Sceaux. Il y en a pas mal, hein, dans pas mal de villes. Des fermes pédagogiques, on en a une à Paris, très, très folklorique, celle du bois de Vincennes. Et c'est justement la question que je voulais vous poser, Augustine Labourie. Est-ce que, en parlant aux petits-enfants et en s'intéressant aux sensibles, est-ce qu'il y a un peu joli, on risque pas de folkloriser l'agriculture et de l'enfermer dans des représentations qui appartiennent vraiment au passé ?
Je ne pense pas. Mais vous parlez de transhumance. Avec l'école, dans le cadre du projet Agrimus, on en a organisé une avec également un ancien élève de l'école qui est devenu berger. Et là, toute l'école, donc de la toute petite section au CM2, ont pu participer à cette transhumance. Au tout départ, le berger a expliqué son métier, et en fait, on a vu que les brebis étaient en liberté autour des élèves, et certains élèves ont eu peur parce qu'ils connaissaient pas, c'est du vivant, ça, en fait, de les mettre en condition avec les brebis autour, certains ont eu peur et tout ça. Et après, lors de la transhumance, on a relié d'un point A à un point B à travers le village. Je pense que les enfants se sont rendus compte qu'on leur a expliqué qu'ils marchaient pour aller dans de nouveaux prés pour être en pâture. Et les enfants, en fait, en marchant, se rendent compte également du travail, le fait de, il faut y aller à pied pour pour faire les pâturer et nourrir ses moutons. Et ils ont vu comment le berger devait se démener, qu'il avait des chiens quand même pour l'aider parce que physiquement, c'était pas facile. Et donc ça, je pense que de les mettre en action, ça permet aussi aux enfants de se rendre compte de certaines difficultés.
Du métier de berger, alors c'est peut-être parfois plus facile de parler d'élevage, mais on visite des fermes pédagogiques, mais on va pas visiter des méga exploitations céréalières en classe. Je pense pas que ça se fasse trop, mais j'aurais peut-être des mails. On va pas visiter des élevages industriels de bovins ou de poulets avec des écoles. En plus, je pense qu'en termes de conditions d'hygiène, c'est pas possible. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une réalité de l'agriculture qui échappe complètement aux apprentissages et à la pédagogie qu'on peut en faire, et à partir de ce moment-là, on ne sait pas très bien de quoi on parle, de quoi on nous parle quand on en entend parler dans les actualités qu'on écoute, par exemple, à la radio avec ses enfants. Claire Delfosse.
Oui, je pense qu'on a quand même, à travers les actualités, justement, et il y a des collègues qui ont travaillé sur les représentations que les enfants, des collégiens avaient de l'élevage, et on a justement des images assez négatives. Donc en fait, on a ce côté peut-être un peu folklorisant, quoique il y a des exploitations d'élevage. Alors, je dirais classique, pas sûrement pas des élevages de cochons industriels ou de volailles enfermées, parce que, comme vous dites, d'un point de vue hygiène et d'intérêt, c'est pas forcément aussi bien. Je pense que des exploitations céréalières, on peut complètement les visiter, puisqu'on peut aller voir les champs, on peut voir les silos, voilà. Mais du coup, oui, cette image, on a c'est encore comme tout à l'heure, un peu de contraste, c'est-à-dire d'une agriculture qui va malmener les animaux, qui va être aussi polluante, et puis d'un autre côté, une image peut-être plus idéalisée. Mais dans les fermes pédagogiques, je pense qu'on a vraiment une grande diversité de ce que l'on propose et que l'on donne à voir aux enfants.
Oui, apparemment, elle se réinvente un peu, hein, cette ferme pédagogique, oui. Perrine van der Broek.
Oui, tout à fait. Puis on peut aussi souligner qu'il y a des événements tels que De ferme en ferme ou Bienvenue à la ferme qui, en fait, donnent accès et donnent la possibilité au grand public, finalement, de se rendre dans les fermes et de les découvrir telles qu'elles sont. Et du coup, c'est des événements qui quand même attirent beaucoup, qui sont l'occasion de sorties familiales. Après, ça va pas toucher tous les jeunes. Donc, on a quand même là une hétérogénéité sur quels jeunes vont avoir ce type de pratique ou même d'aller visiter des fermes pendant leurs vacances. C'est sûr que c'est un type de tourisme qui va pas concerner toutes les familles. Donc, y a quand même là des liens qui se font autrement. Il y a aussi les liens qui vont se faire sur les marchés, qui vont être quand même des occasions de rencontre avec les producteurs. Et en fait, les marchés forains, marchés de producteurs, ont encore une place assez importante aujourd'hui dans un grand nombre de communes. Et ce sont des lieux où finalement les producteurs descendent, en tout cas sur Lyon, c'est ça, ils descendent en ville, et qui sont vraiment des occasions de rencontre où finalement ils peuvent échanger vraiment sur les réalités plus de leur métier. Alors les enfants, ils sont plus ou moins sensibles, je veux dire, selon leur âge, mais ça n'empêche que ça donne des réalités. Après, la folklorisation pour la petite enfance et le passage par des médias un peu sensibles, planter une graine ou un animal dans une ferme pédagogique, c'est déjà réapprendre en fait les cycles du vivant, et c'est un petit peu le point de départ pour pouvoir aborder la suite.
Augustine Labourie, avez-vous l'impression que cet apprentissage, tout bête, des cercles des cycles du vivant, on a quand même parlé de couper une tomate, ce qui paraît plus ou moins évident, suivant les familles et suivant les habitudes des uns et des autres. C'est le premier apprentissage. Vous sentez un grand besoin des enfants et une grande satisfaction?
Oui. Pour un forfait, un potager, on est parti avec toute la classe, toute l'école. On est parti d'un terrain en friche qui était inoccupé. Au mois de juin, les enfants repartaient avec leurs radis, leurs carottes. De la petite section au CM2, ils ont tous été satisfaits et puis contents de. Déjà sur le terrain en friche, ils ont appris à trouver des poireaux sauvages et pour eux c'était des trésors. Ils pensaient pas que c'était des poireaux parce que dans les magasins en grande surface on ne trouve pas du tout le même calibre, même calibrage, même taille. Et donc ils étaient tous heureux de pouvoir repartir avec leurs poireaux à la maison. Ou les petits, ils ont pu en classe transformer et faire des quiches et les manger après. Et tout ça c'est une sensibilité qu'ils ont appris, une curiosité. Ils étaient tous émerveillés de pouvoir faire partie, de toucher la terre et puis de faire partie un peu de ce milieu-là.
Ça, c'est aussi parce que vous avez pu travailler avec la directrice de l'école de Musse. C'est vraiment un travail qu'on ne peut pas forcément faire partout. Il y avait aussi une volonté des enseignants.
Oui, bien sûr. L'équipe enseignante de cette école est très motivée pour pas mal de projets. Elles avaient déjà mis en place l'école dehors. Et donc, ce projet-là, donc on a travaillé quand même quelques mois en amont avant la rentrée. Et les maîtresses ont été très motrices pour créer le potager, organiser les transhumances, aller à la rencontre chez les éleveurs. Et ça, c'est très, très important.
Et donc, on salue la directrice, hein, Marianne Vorel. Vous nous aviez bien donné son nom. Alors, est-ce que la France rurale et la France urbaine, périurbaine, s'opposent? Je ne sais pas. Est-ce qu'on se connaît assez bien? Je vous propose juste d'écouter quelques jeunes collégiens de la campagne auvergnate.
Dans notre campagne auvergnate, beaucoup de jeunes sont passionnés d'agriculture. C'est mon cas. Pourtant, un agriculteur doit se lever tôt. Il faut s'occuper quotidiennement de ses bêtes. Par chez nous, ce sont souvent des vaches. Il est 9h. Pour commencer, il faut les traire.
Si la vie dans nos campagnes semble plaire à Emma, pour Nathan, lui aussi, fils d'agriculteur, les choses semblent bien différentes.
Ici, la vie, c'est ennuyeux. Le temps passe lentement, les occupations sont vraiment pas très nombreuses. Un peu de vélo, de la lecture, des jeux vidéo, enfin, quand c'est possible, car la connexion au réseau est souvent instable. Et oui, il n'y a personne aux alentours. Moi, je me sens bien seul au milieu de ces campagnes. Et puis, c'est compliqué quand on ne peut pas se déplacer. Je n'ai pas de derby, vous savez, ces petites motos. Et puis, impossible de conduire, je n'ai pas l'âge. Moi, je rêve de me déplacer comme je veux, de m'échapper. Bref, vous l'avez compris, j'ai hâte de grandir pour découvrir d'autres horizons.
Un extrait de ACAD Radio, d'une émission donc de cette web radio de l'Académie de Clermont-Ferrand, transmis par Jean-Emmanuel Dumoulin, le professeur qu'on a entendu en début d'émission. Est-ce que c'est finalement ces distinctions urbain-rurales que certains remettent un peu en cause aujourd'hui? J'écoutais la journaliste et romancière Camille Bordonnet en parler, Benoît Coquart. Est-ce que ça a vraiment du sens? C'est pas la même expérience de la jeunesse, mais il y a peut-être aussi des points communs. On a beaucoup mis en valeur, mis en avant plutôt, ces oppositions. Quel sens elles ont encore pour vous, Claire Delfosse, vous qui disiez la carte même de l'agriculture, la carte géographique, elle est un peu plus compliquée que ce qu'on donne à voir le plus souvent.
Oui, c'est clair que opposer l'urbain, le rural aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué, dans la mesure où ce que l'on voit, c'est que souvent on a des allers-retours aussi au cours de la vie entre on va habiter en ville, à la campagne. On voit nos étudiants, ils peuvent venir de la campagne et être en ville pour leurs études. Hein, dans les statistiques, on voit que les jeunes 18-24 ans sont moins nombreux en pourcentage en milieu rural qu'en ville par rapport à la population, par rapport à leur catégorie de population, à la totalité, et qu'ils reviennent après. On a des taux, Donc, ces allers-retours font que parfois on dit il n'y a plus de différence, mais là on le voit par exemple avec ce jeune homme qui parle d'enjeux de mobilité. Les différences, elles peuvent être fortes en termes de mobilité. Alors après, dans les rapports à l'agriculture, je ne sais pas, on a l'Auvergne, on a là des témoignages où les enfants disent, ou les jeunes qui sont sensibles à l'agriculture. Je pense au milieu peut-être plus périurbain ou des grandes plaines d'Île-de-France. Je ne suis pas sûre que les enfants soient aussi sensibles à l'agriculture, y compris à l'agriculture qu'ils voient. Voilà. Pour répondre à votre question tout à l'heure, par exemple, aussi, aller voir, ben moi, je pense, dans un de ces villages d'Île-de-France, la maîtresse allait voir aussi la récolte des betteraves et expliquer après de la betterave au sucre, comment on y arrivait. Donc, on peut aussi faire ces ponts.
Et oui, de la production à l'alimentation, et c'est parfois... étonnant. En tout cas, tant qu'on ne nous l'a pas appris, on ne peut pas le savoir. Et il est bon de le dire aux enfants. Et d'ailleurs, c'est toujours intéressant de faire le test sur un véritable enfant et de voir ce qu'il sait ou ne sait pas et de le transmettre. Alors, un autre terme est apparu, c'est celui d'agriculture urbaine. Apparemment, ça paraît contradictoire. Mais en fait, ça se développe énormément, l'agriculture urbaine. Perrine van der Boek, est-ce que là aussi, c'est un réservoir de savoir pour les enfants, les élèves, les jeunes et peut-être tout le monde, de savoir sur ce que c'est que l'agriculture ? Ou c'est trop spécifique ?
Non, alors les fermes urbaines qui vont se développer, elles vont souvent construire, y compris leur modèle économique, sur quelque chose qui est à la fois de la production, mais si c'était strictement de la production, on peut se dire que dans un sens, les conditions sont pas les plus optimales en milieu intra-urbain, on est en espace contraint, faire venir tout ce qui est nécessaire à une production agricole, c'est pas pratique. Donc souvent, c'est des modèles qui vont se construire aussi sur de l'ouverture. Donc en lien avec des écoles, en lien avec parfois aussi de l'insertion. Insertion sociale, insertion économique. Et donc souvent, c'est des modèles qui vont être très ouverts sur leur quartier et qui vont permettre aussi de créer ces liens et de peut-être rendre accessible un petit peu plus les réalités de l'agriculture dans ces espaces urbains. Après, sur le rural, là, les témoignages qu'on a eus, c'est principalement des enfants d'agriculteurs. En rural, en tant que tel, il y a aussi... Enfin, il y a une partie dans une de nos études récentes, là, il y a un tiers des jeunes qui, par voisinage, par relation de proximité, etc., ont une connaissance un peu meilleure, finalement, d'agriculteurs. Mais il y en a quand même les deux tiers qui, dans un territoire un peu hybride, hein, rural, périurbain, finalement, n'étaient pas du tout en lien avec l'agriculture qui les environne. Et les enfants d'agriculteurs eux-mêmes, bah c'est sûr que c'est des expériences particulières, la vie à la ferme. Et aujourd'hui, le fait que le travail, qu'il y ait vraiment que les agriculteurs vivent sur leur lieu de travail, c'est quelque chose qui continue à se maintenir dans certaines fermes. Et puis d'autres cherchent plutôt à mettre à distance et à vraiment avoir l'agriculture comme métier et plutôt mettre à distance finalement la vie de la famille. Mais ça reste quand même des expériences un peu particulières là de vie en extérieur, des activités qui peuvent se faire à la ferme, je sais pas, jouer sur un quad par exemple, et qui se font pas du tout par ailleurs, quoi.
Oui, alors particulière dans familles qui sont moins nombreuses, hein, on l'a dit, le nombre d'agriculteurs diminue, les agriculteurs vieillissent en moyenne, hein, c'est le choc démographique dont on parlait tout à l'heure. Mais pour revenir à l'agriculture urbaine, on sait qu'en Île-de-France, on ne peut pas vraiment consommer les productions. Par exemple, on ne peut pas manger les œufs des poules d'Île-de-France pour cause de pollution des sols. Et ça concerne toute l'Île-de-France. C'est quand même hyper grand comme territoire. Et ça vaut pour plein d'autres zones. Hein. Je sais pas, à Bordeaux, par exemple, on ne peut pas manger ce qu'on cultiverait dans son jardin, par exemple, pour cause de pollution, là aussi, industrielle. Donc, est-ce à dire que ce sont des fermes urbaines
qui seraient des espaces de démonstration, en fait. Que ce serait comme des mini-salons de l'agriculture. C'est-à-dire que ça a surtout vocation à montrer ce que c'est, ça peut être, ou ce que c'était auparavant, en perdant la fonction nourricière de l'agriculture.
Non, je pense pas. Totalement. Il y a des formes d'agriculture urbaine aussi très différentes. Donc, on peut, quand on parle d'agriculture urbaine, on associe aussi, par exemple, les jardins, des pratiques amateurs ou des associations, justement, de sensibilisation, de démonstration de l'agriculture. Mais on a vraiment aussi dans des territoires, quand on parle d'agriculture urbaine, on est aussi parfois sur la marge, quand même, un peu de périurbain, disons, ou d'agriculture ouverte. Et on a quand même des exploitations maraîchères qui vont vendre sur le marché ou vendre directement. Et on a aussi, enfin, on a vraiment cette volonté en Île-de-France, par exemple, de réinstaller ce type d'exploitation avec de la vente directe. Et si on prend la région lyonnaise, Grenoble, etc., on a vraiment ces exploitations en proximité avec des collectivités territoriales qui vont parfois eux-mêmes investir dans du foncier pour installer des agriculteurs qui pourront vendre dans des magasins de producteurs directement aux habitants. Et en organisant ensuite des fêtes, des systèmes de médiation. Donc je ne pense pas que cette agriculture urbaine soit uniquement démonstrative. Elle est aussi productive et il y a vraiment cet enjeu nourricier, en particulier dans la réflexion des collectivités territoriales qui veulent justement essayer de retrouver un meilleur taux d'autonomie, avec tous les guillemets qu'on peut mettre à autonomie alimentaire.
Ah oui, j'imagine des gros guillemets, parce que c'est pas évidemment le gros de ce qu'on de ce qu'on utilise pour l'alimentation, une dimension de lien social aussi.
Tout à fait. Cette agriculture urbaine, là aussi, surtout quand on peut être, enfin, de lien social par, elle participe, je dirais, de la redécouverte du grand développement des circuits courts depuis le début des années 2000 et en particulier 2010. Et c'est pour ça que cette agriculture urbaine et périurbaine de proximité, je trouve, retrouve vraiment cette fonction nourricière que peut-être elle avait moins à la fin du XXe siècle.
Et avec une fonction pédagogique, parce que c'est des endroits complètement, où beaucoup complètement. De familles et d'élèves peuvent se rendre. Je voudrais parler de l'actualité. Alors, c'est pas une émission sur l'agriculture, voilà, donc je vais te dire rapidement, mais on a énormément parlé de la loi Duplon. On en reparle. Pétition, de nouveau, mobilisation. Les agriculteurs se sont mobilisés contre le Mercosur. Il y a eu la dermatose nodulaire qui a un peu traumatisé le monde de l'élevage avec ses abattages massifs. Tout ça, ça vibre très fort, un peu dans l'esprit de tout le monde, et en particulier, évidemment, du côté des agriculteurs. En tant que membre du laboratoire d'études rurales Perrine van der Broek, hein, comme Claire Delfosse, comment vous pensez que tout ça est, finalement va décanter dans l'esprit des gens et façonner un peu le discours que nous élaborons sur le sujet des agricultures et que nous transmettons aussi à nos enfants quand on en parle, quand on explique, nous, les adultes?
Je suis pas sûre que ça facilite beaucoup les choses.
Moi non plus.
Parce que ça vient nous exposer des réalités géopolitiques qui sont extrêmement complexes, des réalités économiques qui sont difficiles à comprendre. Par exemple, pourquoi est-ce que les agriculteurs perçoivent des aides de la politique agricole commune? On peut pas en 5 minutes traiter de cela dans l'actualité, et c'est quelque chose qui du coup peut rester en fait des nœuds dans la compréhension en fait aujourd'hui des principes politiques, économiques qui président à ce secteur. Et de la même manière sur les questions sanitaires pour l'élevage, mais aussi les questions phytosanitaires de protection des cultures, on est dans des controverses qui sont pas simples. et qui, pour les décrypter, en fait, nécessite un petit temps d'investigation. Et donc, du coup, ça biaise sans doute une compréhension par le grand public, en fait, des réalités agricoles. Ça peut faire peur aussi. On constate quand même dans l'attractivité des formations agricoles que ça a un impact. Donc, il y a vraiment un enjeu là à travailler peut-être sur justement appréhender ben le lien au produit, à l'alimentation, c'est déjà une chose, mais aussi de mieux comprendre finalement qu'est-ce qui pousse, pour quelles raisons et quel est le contexte géopolitique dans lequel on se situe. Et là, il y a un travail sans doute de médiation auprès autant des adultes que des enfants à ce niveau-là.
Et oui, et qui peut le faire, ce travail de médiation? C'est toute la question. Bien sûr, il y a les enseignants, mais on n'a pas toujours un prof de géo sous la main. J'ai eu beaucoup plus de facilité à redire à Avril Ventura ce que c'était que l'assolement triennal qu'à expliquer à Gaspard Carreno, le stagiaire de 3e, ce que c'était que la PAC. En fait, c'est
hyper compliqué.
Alors, je ne vais pas vous poser cette question, Claire Delfosse, mais pour prolonger un peu la réflexion. Et c'est ça, en fait, le sujet de cette émission. C'est-à-dire que l'agriculture, c'est important d'en parler puisqu'elle nous nourrit, puisque c'est central, ce sont nos paysages. C'est très, très important et c'est culturellement aussi très important. Et en même temps, on peine à comprendre ce sujet en tant qu'adulte plus ou moins confiant, diplômé, informé ou pas d'ailleurs.
Oui, en fait, ce que soulignait Perrine, c'est qu'il y a aussi des enjeux géopolitiques très forts. On le voit avec le Mercosur, voire avec les accords avec l'Inde sur les normes. Donc, il y a des droits de douane, il y a des normes.
On des sait, normes environnementales.
Mais pas seulement sanitaires. Ou de qualité, hein, de signes de qualité. Moi, je fais des petits tests auprès de mes étudiants sur qu'est-ce qu'une AOP, une IGP, un label rouge. Voilà, c'est difficile. Donc, il y a aussi de la médiation à faire auprès du consommateur sur aussi ces signes de qualité, sur qualité de l'alimentation, de l'agriculture et coût de notre alimentation. Toute cette chaîne aussi est de bien montrer comment l'agriculture s'insère aussi, qu'il y a de la transformation, qu'il y a des enjeux, qu'il y a aussi des nuisibles, qu'il y a pour préparer un peu, j'ai regardé ce qui était un peu disponible. J'ai vu par exemple que les agriculteurs de la Suisse romande faisaient un petit carnet sur l'agriculture suisse. Et c'était très intéressant parce que, alors, d'abord, c'est la Suisse, effectivement. Donc, il y a la montagne, il y a ce côté d'enjeux très, très forts aussi d'autonomie alimentaire.
Et de paysage.
Et de paysage, de nature. Mais n'hésitant pas à parler de nuisibles, de problèmes de culture. Et je pense que ça, c'est peut-être ça aussi qui nous manque. Voilà. C'est de bien comprendre le fonctionnement un petit peu, et c'est compliqué. Parce que c'est un fonctionnement géopolitique, parce que c'est le vivant, parce qu'on a aussi un dérèglement climatique, et que justement, on manque d'eau, à un moment donné, il fait trop chaud, il y a trop d'eau, voilà, et puis il y a des épizooties.
Et c'était la dermatose nodulaire, et voilà. ces maladies qui font hélas trop souvent la une. Des réalités complexes, mais dont on peut commencer à saisir, on l'a compris, en allant visiter ces espaces ruraux et puis ces fermes de proximité quand c'est possible. On vous y encourage tous. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, j'annonce qu'on va faire une émission sur la spécialité AGGSP, parce que la géopolitique, vous savez, ça intéresse de plus en plus
complètement
d'élèves, Claire Delfosse, et ça, c'est extrêmement intéressant. Merci à Avril Ventura, adjointe à la production d'Être et Savoir, réalisée par François Richer avec Mineta Diawara à la technique. Notre stagiaire de 3e de la semaine, c'est Gaspard Carreno Kerel. J'ai quelques secondes pour vous conseiller deux programmes. Le LSD d'octobre 2024, Apprendre la Terre, former les agriculteurs de demain sur les lycées agricoles. Il est
passionnant comme souvent LSD, mais là vraiment incroyable. Et puis la semaine prochaine, enfin le mardi qui vient, Aurélie Luneau consacrera son émission aux formations de vétérinaire, aujourd'hui très interrogée, un peu en crise. Donc ça aussi, on écoutera attentivement.